Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Olivier Weber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez été, vous êtes encore agrégé d'histoire, vous êtes ancien élève de l'ENA, maître de conférences à Sciences Po en questions sociales. Et si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est pour que nous éclairions ensemble la difficile question de la réforme des retraites, pour y introduire quelques lumières. La réforme des retraites, qui n'était pourtant pas au programme du quinquennat de Nicolas Sarkozy avant les élections présidentielles, est devenue, avec la crise et suite à l'annonce du 22 juin 2009, une réforme test pour le gouvernement, à la fois par rapport aux enjeux de politique intérieure, pour attester de la compétence et de l'efficacité du pouvoir en place, mais aussi à l'international, afin de montrer que la France n'est pas la Grèce et qu'elle doit être capable de résorber sa dette publique. Alors, au-delà de ses intentions politiques ou politiciennes que l'on comprend et qui ont amené le changement à la tête du ministère du Travail de Xavier Darcos à Éric Woerth, je voudrais vous demander, en guise de première question, Olivier Weber, quelle est l'urgence de cette réforme et quels sont les traits dominants qui explique sa nécessité?
Bien. La réforme, elle est appelée par les partenaires sociaux, par différents partis politiques depuis un certain nombre d'années. Il y a eu une première réforme en 2003, puis un nouveau rendez-vous en 2008. Et aucune de ces réformes, aucun de ces rendez-vous n'a réglé le problème définitivement. En témoigne le rapport du COR sorti mercredi dernier, qui
Le 14 avril.
Le 14 avril, le Conseil d'orientation des retraites, pardon, pour être un peu plus clair. Qui indique que en 2050, le déficit, si on ne réforme pas, le déficit pourrait être compris entre 72 milliards et 115 milliards par an pour la sécurité sociale au titre des retraites. Donc c'est cette situation qui aujourd'hui précipite le débat. Le débat avait été lancé auparavant, on sait, compte tenu du vieillissement de la population, compte tenu du fait que le nombre d'actifs diminue alors que le nombre de retraités qui vivent de plus en plus longtemps augmente. On sait depuis longtemps qu'il y a un souci, un problème avec les retraites et qu'il va falloir s'attaquer à ce problème. Donc voilà pourquoi la réforme, au cours des dernières années, profondément, le débat n'a pas changé. La question demeure, comment financer un système de retraite dans un pays où il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de personnes âgées. La question peut-être qui pointe aujourd'hui, c'est davantage de savoir s'il faut faire des réformes financières, qu'on appelle paramétriques, ou s'il faut réformer l'ensemble du système de retraite. Et c'est peut-être la question qui sera posée au gouvernement dans les prochaines semaines.
Oui, alors c'est la question que je voulais vous poser. Au fond, quelles sont les pistes aujourd'hui des réformes qui ont été envisagées, à la fois dans le passé, par les gouvernements précédents, et quelles sont les orientations qui pourraient être prises par l'actuel gouvernement?
Alors, depuis 2003 au moins, les pistes, finalement, sont des pistes financières essentiellement, agir dans le cadre du système actuel. Alors, il y a trois manières d'agir dans le cadre actuel. D'une part, allonger la durée de cotisation. On sera à 41 ans en 2012. On peut passer à 42, 43, voire 45 ans. Deuxième possibilité, reculer l'âge légal de départ à la retraite. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a 60 ans, c'est-à-dire établir qu'on ne peut pas prendre sa retraite avant 61, 62 ou 63 ans, à l'exception de quelques professions particulières. Troisième possibilité, baisser le niveau des pensions, de manière à sécuriser financièrement le phénomène. Enfin, une dernière possibilité qui est refusée par le gouvernement d'ores et déjà, c'est d'augmenter les cotisations, que les actifs payent davantage pour les retraités. Alors, si on reprend ces pistes une à une assez rapidement, les Français sont très attachés à l'âge de 60 ans. Donc, c'est très difficile pour un gouvernement de pousser le relèvement de l'âge du départ à la retraite. Je l'ai dit, pour l'augmentation des cotisations, le gouvernement est assez opposé à cette situation, enfin à cette solution. Pour ce qui concerne la baisse du niveau des pensions, là encore, il serait difficile d'imposer aux retraités une baisse de leurs revenus à l'avenir, sachant que près de 10% des retraités vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc finalement, tous les gouvernements depuis 10 ans sont dans une impasse sur ce sujet-là. Le gouvernement actuel a manifestement décidé de pousser l'hypothèse du relèvement de l'âge de départ à la retraite, hein, donc reporter l'âge légal à 61 ou 62 ans, ou encore reporter l'âge qu'on appelle du taux plein, qui permet de partir à la retraite en ayant un taux de remplacement de son revenu plein, qui est actuellement de 65 ans, le repousser à 66, 67, voire 70 ans. Si bien que, pour prendre un exemple concret, quelqu'un qui n'aurait pas travaillé ses 41 ans et qui aurait 67 ans devrait travailler jusqu'à l'âge du taux plein. Et si cet âge du taux plein est à 70 ans, cette personne devrait travailler jusqu'à 70 ans. Voilà les solutions actuellement plutôt envisagées par le gouvernement, agir sur la durée de cotisation. Parallèlement, on entend de plus en plus des discours qui poussent à une réforme d'ampleur du système. C'est-à-dire, certains veulent passer un régime qu'on appelle par points, c'est-à-dire qu'on ne connaît plus le montant de la retraite qu'on aura à l'avenir, mais au moment où on prend sa retraite, le système vous dit vous avez droit à temps. Et puis d'autres, enfin, poussent un système qu'on appelle de compte notionnel, où le montant de la retraite serait calculé finalement en fonction de son espérance de vie. C'est une mesure qui vise à plus d'équité, qui consiste à dire que l'ouvrier ne bénéficiant que de 10 ans de retraite, il est normal qu'il touche plus sur 10 ans que le cadre supérieur qui en bénéficie pendant 25 ans. Donc ces hypothèses-là sont portées par certains syndicats, par certains partis aujourd'hui. Pour le moment, le gouvernement ne les a pas reprises, mais compte tenu des enjeux actuels, il sera peut-être obligé d'envisager des réformes de cette ampleur.
Des réformes d'ampleur, vous appelez ça. Oui, alors oui. Pour cela, il va consulter largement ?
Alors, théoriquement, il doit consulter. Les partenaires sociaux sont très attentifs. C'est un sujet qui, depuis les années 90 au moins, est très mobilisateur dans l'ensemble de la population française, dans la fonction publique, mais également auprès des employés salariés du privé, hein, qui, de ce point de vue-là, sont assez solidaires de la fonction publique sur la question des retraites. Il y a une inquiétude très forte des Français sur ce sujet-là et une inquiétude qu'on discerne dans le fait que les Français essayent de partir le plus tôt possible à la retraite, c'est-à-dire qu'ils utilisent tous les dispositifs ou micro-dispositifs qui existent pour partir le plus tôt possible, aidés en cela par les entreprises d'ailleurs. Donc le gouvernement va être obligé de consulter l'ensemble des partenaires pour pouvoir prendre des décisions acceptées ou acceptables. Le problème aujourd'hui, c'est que peu de décisions semblent efficaces et acceptables.
Alors justement, vous venez de le dire, le débat sur la retraite a un fort pouvoir émotionnel, parfois même on pourrait dire anxiogène, alors que ce secteur-là est moins déficitaire que celui du sanitaire et du social qui est tout autant vital. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ?
L'explication, il y a une double explication, je dirais. La première, c'est que contrairement aux dépenses de santé ou aux dépenses sociales d'exclusion, on est certain des dépenses de retraite futures. Alors que les dépenses de santé futures, on n'en est pas certain. Ah, oui. Donc d'une certaine manière, c'est plus simple d'objectiver le danger futur. Le deuxième élément, c'est que vraisemblablement, comme les réformes à prendre sont des réformes qui seront peu populaires, il est bon d'insister sur leur urgence et d'insister sur l'ampleur des déficits de manière à favoriser l'acceptabilité de réformes qui vont pousser les Français à travailler plus longtemps.
Mais le déficit de la sécurité sociale, il est énorme aussi. On peut le dramatiser de la même façon.
On peut le dramatiser de la même façon. C'est un peu ce qui se passe sur les dépenses de santé. Hein. Vous avez eu la même dramatisation il y a quelques années pour faire passer, j'allais dire, des inflexions politiques visant à renforcer la prise en charge par les individus de leurs propres dépenses de santé. Donc je dirais pas que c'est la tactique politique, ce serait un jugement de valeur, mais c'est la volonté des pouvoirs publics de faire prendre conscience à la population de l'importance des enjeux de manière à ce que les mesures pas toujours agréables puissent être acceptées.
Est-ce que vous pourriez nous dire par rapport justement à la durée des cotisations, point que vous avez déjà abordé de façon extrêmement claire, quels sont les enjeux engagés autour du travail des seniors et de la pénibilité du travail ?
Je dirais que c'est un peu l'impasse actuelle de toutes les réformes. C'est qu'on veut allonger la durée d'activité de manière à ce que les personnes cotisent plus et passent moins de temps à la retraite. La difficulté, c'est que concrètement, les Français ne veulent pas travailler plus, en tout cas plus longtemps, et les entreprises ne souhaitent pas non plus garder leurs travailleurs plus âgés. La France se caractérise par un taux d'emploi des seniors extrêmement faible en Europe, près de 38%.
Ce qui est historique, ça, c'est parce qu'elle a une histoire de lutte et de protection aussi.
Il y a une histoire de protection, il y a un passé également lié à l'idée de la retraite à 60 ans. Et donc, les Français ont fait de la retraite à 60 ans, d'une certaine manière, une habitude commune et partagée. Il est très difficile de passer outre. Si bien qu'aujourd'hui, par rapport à ses voisins européens, la France a un taux d'emploi des seniors extrêmement bas, beaucoup plus bas que l'ensemble de ses voisins européens. Hein, l'objectif européen était d'arriver à 50% de seniors en emploi en 2010. La France est à 38%, c'est dire. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, je dirais, c'est que si on veut... c'est donc d'arriver à développer l'emploi des seniors, à faire en sorte que les personnes âgées soient recrutées par les entreprises, puissent travailler dans des conditions acceptables pour elles-mêmes, ce qui a des répercussions sur les négociations sur la pénibilité du travail. Les syndicats, depuis 2005 maintenant, je crois, ont peine à aboutir, n'ont pas abouti sur la question de la pénibilité du travail. L'idée étant de forcer les personnes qui ont des travaux peu pénibles à travailler plus longtemps, et en revanche, d'accorder aux personnes ayant eu des carrières avec des travaux pénibles, d'accorder à ces personnes le droit de partir avant, et non pas à 65 ans pour quelqu'un qui travaille de nuit toute l'année.
C'est ça. Donc l'idée, ça serait quand même d'aller vers plus de flexibilité ou de modulation.
De modulation, en fonction des situations individuelles. Il est clair que la situation d'un fonctionnaire qui a un travail quand même assez confortable dans la vie quotidienne et la situation d'un ouvrier de l'industrie n'est pas la même. Donc quelqu'un qui fait les 3-8 ou pas. Et que de ce point de vue-là, quand on arrive à 65 ans, on est plus ou moins usé par une carrière professionnelle. Et il n'est pas injuste que certains travaillent plus longtemps, puisque leurs conditions de travail sont quand même plus adaptées, plus confortables à leur âge plus avancé.
Et cette flexibilité ou cette variation, on pourrait la penser de la même façon par rapport à l'âge légal de la retraite ou à l'âge de la prise de la retraite effective ?
C'est tout l'enjeu des négociations sur la pénibilité, d'arriver à identifier soit des métiers, mais soit des tâches pénibles qui donnent droit à des réductions de durée de cotisation. Et d'avoir un âge légal qui serait à 65 ans, mais certaines populations qui pourraient partir à 62, à 60 ou à 58.
Alors, quelle serait l'instance qui pourrait aider l'accord, précisément, ou pas ?
Le gouvernement pousse les partenaires sociaux à négocier sur cette question. Le gouvernement s'est engagé à faire figurer la pénibilité dans son projet de loi qui doit être remis, je crois, au mois de juillet. La question maintenant est d'aboutir. Est-ce que les partenaires sociaux arrivent à prendre en charge la question de cette pénibilité ? C'est aujourd'hui sans doute un point bloquant dans la réforme des retraites. L'autre point bloquant étant la capacité des entreprises à aménager le travail pour les personnes de 55 ans et plus et à considérer que cette main-d'œuvre est source de productivité et pas simplement source de charges supplémentaires.
Alors, Olivier Weber, j'ai coutume de demander à l'issue des émissions de l'Union Rationaliste pourquoi notre invité est rationaliste. Alors, je voulais vous demander, en adaptant ma question à votre travail, si votre rationalisme s'exprime du côté des politiques publiques. Et est-ce que c'est possible de vouloir rationaliser les politiques publiques ?
Alors, rationaliser les politiques publiques, absolument. Avoir une approche rationnelle des politiques publiques, je dirais que c'est modestement ce que j'essaye de faire, ce que j'essaie de faire aujourd'hui sur les retraites, c'est-à-dire essayer de comprendre les termes du débat de manière à chasser la mauvaise monnaie, ne garder que la bonne, et à poser les problèmes tels que sans doute on peut les percevoir après un examen raisonnable de la situation.
Donc ce que vous pensez, c'est qu'il est possible d'être à la fois...
Il est possible, il est nécessaire aussi pour ne pas être trompé.
Oui. Voilà. Olivier Weber, je vous remercie.
Merci.
Le dernier numéro de Raison Présente porte ce mois-ci sur l'enjeu du service public. Le colloque de l'Union Rationaliste s'est tenu le vendredi 16 avril au Collège de France. Il portait sur culture, savoir et compétences. Je remercie Brigitte Mazir et Alain Joubert qui ont rendu possible cette émission. Je remercie également Jean-Baptiste Perrin qui m'a aidé pour la préparation de cette émission.